Gaston Kelman est né au Cameroun, à Douala. Il a fait ses études en Angleterre et s'est finalement installé en France en 1982, où il s'est marié. Il s'est fait connaître avec son livre en 2003, « Je suis noir et je n'aime pas le manioc », où il revendique ainsi le choix d'une culture plus française qu'africaine. En 2005, il écrit « Au-delà du noir et du blanc », qui prolonge l'idée que le noir n'est pas qualifiable en un mot, mais qu'il est pluriel. Et en 2007, « Parlons enfants de la patrie », son troisième livre démolit les slogans de mai 68. « Noir et blanc semblent prisonniers des mêmes problèmes, l'héritage inné ». Ce qui les prive de l'ascension sociale, ce n'est plus l'appartenance ethnique, mais l'appartenance au milieu social. Dans cet entretien, nous avons notamment évoqué les systèmes antidiscriminatoires anglais et américains qui l'opposent volontiers à la bienveillante égalité des chances française. Bonjour Gaston Kelman, vous êtes ici à Montpellier pour présenter votre nouveau livre « Parlons enfants de la patrie ». Je crois que c'est votre troisième livre qui traite toujours de l'histoire de l'identité française et la place de l'homme de couleur dans cette société.
Parce que je pense que le problème n'est pas encore épuisé. Et en fait, là, j'avais besoin de cette trilogie pour essayer d'aller au plus profond de ma pensée. Le premier ministre, c'était « Arrêtons la stigmatisation, je ne partiens pas à une ethnie qui s'appelle noire, je m'appelle Gaston. Donc, Kelman, je suis un individu. Le deuxième, c'était, il y a des noirs, il y a des blancs, mais ce n'est qu'une superficie et que la réalité de l'homme, ce n'est pas la couleur. Il n'y a pas de couleur, il y a des hommes. Et que nous avons été plombés par un passé commun, l'esclavage et la colonisation, qui ont fait que nous n'avons plus les moyens, nous ne voulons pas nous donner les moyens de nous regarder aujourd'hui comme citoyens. Voilà ce qu'il faut faire pour sortir du regard du passé et rentrer dans le regard du présent des citoyens. Et le troisième, j'ai dit, mais au fait, même le racisme, là, c'est plus un prétexte pour nous. La France est un pays de privilèges innés. Et en plus de cela, il y a eu une philosophie de mai 68 qui a fait que, aussi bien en France que dans les pays francophones, on a miné l'avenir de nos enfants. En France, les enfants des petits blancs sont aussi malheureux que les enfants des noirs parce qu'il y a le problème du privilège inné premièrement. Et que quand il y a 220 000 petits français en Angleterre pour le travail, ce n'est pas tous les petits noirs, mais c'est tous les enfants de pauvres qui ne trouveront pas leur place en France où il faut avoir un pédigré pour pouvoir être accepté dans la haute société. Et qu'effectivement, en Afrique, par exemple, quand les gamins d'Afrique que veulent venir en Occident, ils ne fuient pas un pays où il y a le racisme, dont le racisme est un prétexte pour tout le monde. Les Africains ne veulent pas du tout sauver leur jeunesse, ils volent tout l'argent, tout le bien du pays, et puis les enfants meurent. Donc attention, ce n'est pas que le racisme. J'ai pris cet exemple de l'Afrique pour prouver que le racisme ne justifie pas tout. Et pour dire, par exemple, qu'effectivement aussi, en France, les enfants issus de l'immigration sont victimes de tous les adultes. Des adultes qui ont le pouvoir, l'élite qui ne leur donne pas de place, pensant qu'ils ne peuvent faire que du football, mais aussi leur père, qui, dans cet espace de rêve, ne rêve que d'épater la galerie en Afrique, construise des villas là-bas, construise des écoles et des mosquées, alors que si on parle d'école en France, tout le monde dirait « non, pas les moyens ». Et eux, ils ont les moyens d'aller épater la galerie en Afrique pour montrer qu'ils ont réussi en France. Parce que leur rêve, c'est d'épater ceux qui sont restés au pays. Donc voilà comment est-ce que toutes les jeunesses sont victimes des adultes, au-delà même du racisme qui est réel, des stigmatisations et des discriminations qui sont réelles, mais qui restent parfois un alibi, aussi bien pour le blanc, pour dire « oui, c'est vrai quand même, il faut qu'on fasse quelque chose, nous ne sommes pas encore prêts, c'est les Français qui ne sont pas prêts », alors que c'est lui, l'élite, qui n'est pas prête, parce qu'elle ne veut pas lâcher les privilèges. Elle se sert du racisme. Mais le vilain ou le petit Dupont qui habite à Sarcelles, il a moins de chances que le petit de Faucigny qui habite dans le 7e arrondissement de Paris, ça c'est clair.
Le centre, Vieira en pivot, et c'est le but. Patrick Vieira, le jour de ses 30 ans, permet à l'équipe de France de mener un but à zéro.
Ces propos, au-delà de leur caractérisation par le droit, ne sont pas compatibles avec les valeurs d'égalité et de respect des droits humains qui fondent depuis toujours l'engagement du Parti Socialiste après en avoir délibéré la Commission Nationale des Conflits du Parti Socialiste à l'unanimité de ses membres a décidé l'exclusion définitive de Georges Frey.
Vas-y mon Zizou !
Il y a une question qui est incontournable, on est ici à Montpellier, le président de la région c'est monsieur Georges Frey, qui avait déclaré qu'il y avait trop de noirs dans l'équipe de France pour une raison visiblement, une raison peut-être secondaire, c'est que les blancs étaient nuls. Et j'ai l'impression que vous souscrivez donc à cette phrase.
Oui, bon, je souscris c'est avec des nuances. Frech a raison. Dans un pays dont les noirs ne représentent pas 10%, avoir 90% dans une profession, soit ils sont faits pour cette profession, soit on les a orientés dans cette profession. Je ne récuse pas le fait qu'on oriente les gens dans les professions, ou bien qu'eux-mêmes choisissent des professions. Je veux tout à fait que les Auvergnats soient bougnats à Paris après, et qu'ils soient bistrotiers aujourd'hui. Quand les Maliens étaient éboueurs, parce qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre qu'éboueurs, parce qu'ils étaient venus en alphabet, qu'ils soient éboueurs, ça ne me choquait pas du tout. Mais posons-nous la question, dans cette France qui se reconstruit aujourd'hui, où l'imaginaire, c'est que le noir est musicien ou sportif, il a le rythme dans la peau, voir 9 noirs à l'équipe de France, on doit se poser des questions. D'autant plus que notre confrère, l'Angleterre, qui est aussi un ancien empire colonial, il n'a pas autant de noirs dans son équipe nationale. Pourquoi ? Et il a plus de noirs à l'Assemblée. Quand il y a 9 noirs sur 11 à l'équipe nationale et 0 noir à l'Assemblée, alors qu'en Angleterre, il y a peut-être 2 noirs qui viennent des Antilles anglaises à l'équipe nationale et qu'il y a peut-être 10 noirs à l'Assemblée, on se pose la question. Est-ce que nous ne serions pas dans la perpétuation de ces privilèges innés et dans la perpétuation d'un imaginaire qui voudrait que le noir soit pour le football ? Alors à partir de là, je me dis Frèche, dans la folie, dans une espèce de folie, exprime ce que les autres taisent. Quand Frèche dit que les Harkis sont des sous-hommes, les Harkis ne sont pas des sous-hommes, mais Frèche reproduit ce que tout le monde pense, puisque ces pauvres gens qui se sont battus pour la France, pendant 40 ans, on les a maintenus dans des taudis. Si Frèche avait dit que les Noirs étaient des sous-hommes, est-ce qu'on aurait dit non, puisque les tirailleurs sénégalais, tout le monde, tous les gouvernements de France depuis 59, nous ont prouvé qu'ils n'avaient pas droit à la même pension de retraite que leurs camarades d'armes blancs. Alors à partir de là, et je me dis, mais au fait, si Frèche avait dit, il y a 577 blancs à l'Assemblée, c'est parce que les Noirs, et il n'y a pas de Noirs parce que les Noirs sont nuls. Ah ah, c'est là. Quand Frèche dit que les Blancs sont nuls, ça demeure personne parce que ceux-là, c'est des grands, ils peuvent se défendre tout seuls. Mais les pauvres Noirs, Frèche les insulte, oh là là, vraiment on repart pour un tour d'hypocrisie, de bien-pensance intellectualisée et on perd le temps au lieu de se dire, mais en fait, c'est vrai, s'il y a 9 Noirs dans un pays où les Noirs ne représentent pas 10%, s'ils représentent 88%, 85% dans un domaine, est-ce que ça veut dire qu'ils ont des compétences ? C'est ce que tout le monde pense. Tout le monde me dit, garçon, vous vous êtes fait pour le sport. Tous les sprinteurs sont noirs. Ou bien alors, c'est parce qu'on les a orientés vers cette orientation, ou bien parce qu'ils en ont des compétences. Bon, là, il faut qu'on réponde à cette question.
Tous les jours, fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça. Alors toi, où tu fais ci, où tu fais ça.
Gaston Kelman, vous écrivez sur la France, sur l'intégration. C'est parce que vous aimez démesurément la France, j'imagine. Et revient quand même toujours l'exemple anglo-saxon. Alors, est-ce qu'ils sont meilleurs pour lutter contre la discrimination ?
Voilà comment est-ce que le système anglo-saxon se pose. Du jour où les Noirs américains ont dit « nous ne sommes pas Noirs, nous sommes Américains », regardons un peu. En France, qu'est-ce qu'on nous montre ? À la télé. C'est toujours le bac plus 5 noir ou arabe qui a travaillé dur, dont le père était au chômage, qui a fait des études pour. Qui a fait des petits boulots pour financer ses études. Et on nous dit qu'il est au chômage. Oh, la France est méchante. Oh, la France. Mais comment voulez-vous vous servir du négatif pour l'exemplarité ? Si vous allez aujourd'hui à la Défense à Paris, vous allez voir des centaines de jeunes noirs qui sont des cadres supérieurs. Pourquoi ne pas montrer cet exemple positif pour dire aux noirs vous êtes capables de réussir, premièrement ? Aux États-Unis, dans cet exemple, quand on s'est mis à se battre pour les equal rights, quand il y avait un noir dans une profession, on en mettait 10 à la télé pour que les petits noirs se disent, nous aussi, nous avons droit au rêve américain. Nous aussi, on peut être shérif, on peut rentrer dans le rêve américain comme shérif. Un noir flic, on envoyait 10 à la télé. Quand les Américains viennent en France, ils sont surpris de l'inverse. Quand ils voient les Français aux États-Unis, ils ne voient que des Blancs. Que ce soit par la télé, que ce soit par les dirigeants. Mais quand ils viennent en France, ils voient que la France est aussi multicolorielle que les États-Unis. Entre les Arabes et les Noirs en France, nous avons exactement le même taux de race, entre guillemets, que les États-Unis avec les Latinos et puis les Noirs. Mais comment se fait-il que nous, dans la fiction, on ne les montre pas, comme si on voulait freiner, premièrement. Et deuxièmement, en Angleterre, la discrimination positive se fait pour les basses catégories. Parce qu'on se dit, c'est vrai que les basses catégories, on aurait tendance à privilégier les autochtones. En France, la discrimination positive est faite pour les bacs plus 5. Vous avez rempli votre part de contrat, mais vous allez prendre la place d'un bon blanc du 6e arrondissement et vous n'avez pas de place du 7e arrondissement. Et ça, la télé, la presse qui nous donne des leçons. La télé encore se comporte peut-être mieux parce qu'elle est visible. Aujourd'hui, elle ne veut plus être stigmatisée. Mais la presse, par exemple, les deux ou trois grands organes de presse de Paris, nationaux, n'ont pas de noirs. Et très peu d'Arabes. Il y en a un qui me disait, oui, c'est vrai, on a, je vous assure, c'est quelqu'un d'un grand organe de presse en France qui me disait, c'est vrai, on a juste un stagiaire arabe et qu'on paye au lance-pierre. C'est ton expression. Quand je lui ai posé la question, il me dit, c'est vrai, Gaston. Et pourtant, eux, tous les jours, ils parlent de ça. Mais eux-mêmes ne se rendent même pas compte à quel point ils sont là-dedans. Donc, en France, c'est plus tu es diplômé, plus tu es suspect. Quand tu n'as pas, si tous les Noirs voulaient être boueurs et vigiles, il n'y aurait pas de chômage dans l'immigration. Parce qu'on est supposé être venu en France pour ça. On n'est pas supposé être venu pour rester. C'est pour cela qu'on apprenait les langues des pays d'origine aux enfants et qu'on n'enseignait pas le français aux parents. Donc, l'Angleterre, les Anglo-Saxons, dès qu'il y a un problème, ils le prennent à bras le corps. L'espace privé, c'est votre problème. Tu n'épouses pas ma fille, tu restes chez toi. L'espace public, tu as ta place à partir du moment où tu fais tes preuves. Et s'il y a du retard aujourd'hui aux États-Unis, c'est peut-être parce que 300 ans d'esclavage ont très fortement endommagé le psychique des Américains, des Noirs, et c'est ce qui fait qu'eux-mêmes ne se trouvent pas en position d'aller réclamer ce à quoi ils ont droit. Et c'est pour cela que beaucoup de Noirs américains ont été contre la discrimination positive parce qu'ils disaient que les Noirs ne veulent pas aller à l'école, ils préfèrent le basket et le rap. Ils disent que l'école n'est pas cool. Donnons-leur l'obligation d'aller à l'école et vous verrez que l'Amérique est ouverte à tout le monde. En France, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Tout le monde peut aller à l'école. Et quand je dis tout le monde, je parle du noir, de l'arabe, mais aussi de la femme, qui sont aussi parfois les victimes de stigmatisation, mais aussi l'enfant de l'ouvrier, qui lui aussi est victime de stigmatisation. Mais sauf que quand ils ont le diplôme, la sélection commence. Et plus ils réussissent à l'école, plus on aggrave la ségrégation. Dans la mesure où, il y a 30 ans, 30% de Sciences Po, c'était les enfants d'ouvriers. Aujourd'hui, où il y a énormément de bacheliers dans les classes ouvrières, c'est 3,5% de la classe ouvrière qui est à Sciences Po. Vous voyez, ce n'est pas un hasard. C'est qu'on a mis un frein quelque part.
Siempre que te pregunto que cuando, como y donde tu siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás.
Pour lutter contre l'héritage inné, en fait, il y a simplement l'ascenseur social qui devrait fonctionner ou qui doit fonctionner. Et surtout, les minorités doivent faire en sorte de s'accrocher. En fait.
Il y a la pédagogie. La pédagogie de tous les côtés. Qu'on explique aux décideurs blancs qui n'embauchent, qui ne fait pas de la charité à un noir en l'embauchant. Voyez, aux États-Unis, ils parlent de equal rights. En Angleterre, ils parlent d'equal opportunity. En France, on parle de l'égalité des chances. Personne ne demande une chance. On a l'impression que quand on embauche un noir, on l'aide. On ne l'aide pas. C'est lui qui est supposé aider l'entreprise à s'enrichir. Quand on embauche Harry Rosenmack, on nous dit qu'il apporte la diversité colorée et la diversité culturelle. Harry Rosenmack est né à Tours. Il est un Français de souche. Mais c'est la couleur de la peau qu'on voit. Donc, c'est là le problème. Donc, pour que ça arrive, il faut premièrement que nous fassions de la pédagogie. Vous voyez, il faut expliquer aux Noirs qui ne sont pas des Noirs, qui ne sont pas des Africains, qui sont des Français. Expliquer exactement la même chose aux Blancs. Ce jour-là, on parlera citoyenneté. On ne perdra plus nos savants. Parce que l'un des savants qu'on a perdu, c'est Cheikh Modibo Diarra. C'est le grand savant noir qui travaille à la NASA. Parce qu'en France, comme lui-même il dit, on l'aurait vu comme noir, on ne l'aurait pas vu comme savant. Donc il faut vraiment de la pédagogie. Et je pense que le fils de l'immigré a toutes les chances d'apporter cela parce que beaucoup de Blancs acceptent le principe du privilège inné. Beaucoup de Blancs l'acceptent. Il y a des Blancs parce qu'ils s'appellent le vilain ou bien parce qu'ils s'appellent je ne sais pas trop quoi. Il a l'impression qu'il ne peut pas accéder à certaines catégories. Mais le noir, lui, c'est qu'il est venu pour se battre. L'arabe, ils veulent accéder. Rachida Dati, c'est des exemples exponentiels. Rachida Dati, de père, de maman ouvrière. Franchement, le nombre de ministres qui sont arrivés en France, de maman ouvrière et de maman femme au foyer, de papa ouvrier, il n'y en a pas beaucoup. Elle est là.
Gaston Kelman revendique une position singulière dans le monde des écrivains d'origine africaine. Un tantinet libéral, il suppose que le marché du travail pourra récompenser ceux qui font des efforts, c'est précisément le modèle anglais. Il voit même en Nicolas Sarkozy l'exemple ultime de celui qui veut prendre une revanche sur sa naissance et qui très tôt aura décidé de devenir président de la République.